Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Les mecs que je veux ken.
Chers auditeurs, chères auditrices, mes hédonistes, mes accordéonistes, merci pour vos retours sur l'épisode précédent avec Ilana Weijman. Elle vient d'avoir une très belle page dans Libération. Figurez-vous que je n'ai toujours pas récupéré mon sac à main, oublié dans ma chambre d'hôtel à Bruxelles le 7 octobre. J'aurais dû y retourner le dimanche, faire l'aller-retour, claquer 200 balles, mais au moins être débarrassée. L'hôtel l'a envoyé lundi dernier le 10, en service express, mais le colis est apparemment coincé aux douanes belges. On en rira un jour, pour le moment c'est relou. Mes voisins avaient un double de mon trousseau de clés, mais il manque dans ce double la petite clé qui ouvre ma boîte aux lettres, donc je ne peux pas recevoir mon courrier, voir les avis de passage. Je dois aller à la poste, c'est kafkaïen, leur demander « Vous avez quelque chose pour moi ?» et eux de répondre « Non madame, rien. Nous n'avons rien pour vous. Je vais appeler le syndic de mon immeuble pour refaire cette petite clé, mais ça va encore prendre un temps fou et être payant. C'est payant aussi de faire garder son courrier à la poste et surtout c'est galère, vu leurs horaires, d'y aller pour savoir si j'ai reçu quelque chose ou non. Or, j'attends des livres de mes prochains invités du podcast. Bref, autant vous dire que j'ai fait des petites crises de boulimie de sucre par angoisse. Je peux pas non plus faire de virement parce que la carte avec les chiffres codés pour confirmer à la banque est dans mon portefeuille. Je me débrouille avec Apple Pay, Lydia et PayPal, mais bon, j'ai plus ma carte pour la salle de sport, pour l'UGC, je vais pas toutes les refaire. J'ai pas le temps et c'est souvent payant, mine de rien, comme la Navigo, et tout est comme ça. Voilà, j'avais aussi dans mon sac à main mes écouteurs d'iPhone, j'ai plus de musique dans le métro, dans la rue, ça me manque trop. Puis tout bêtement, en fait, j'aimais mon sac à main, voilà, qui composait mon style. J'avais dedans un beau petit rouge à lèvres. Bref, finira-t-il par revenir ce sac à main? Je ne sais pas. Ma consolation, outre le sucre, c'est vous. C'est mon spectacle, le podcast. Samedi dernier, une spectatrice m'a déposé des fleurs à la nouvelle scène avec un petit mot pour me dire que j'étais sa Sarah Silver. Franchement, j'en chialerais. On me demande souvent « Quels sont tes podcasts préférés, Rosa ?» Et je cite mes références, des podcasts d'humoristes américains. Ceux de Sarah Silverman, Marc Maron, et la liste est longue. Donc je suis coupée par un « Non mais ton podcast français préféré ?» Ah ! Et vous connaissez peut-être alors ma réponse. Mon podcast français préféré n'est pas un podcast d'humoriste. C'est un podcast sur la métacognition, pour penser par soi-même. Il s'agit de Méta de choc, tenu par Elisabeth Fetti, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui. C'est un crossover à la fois totalement inattendu et qui pourtant fait sens, vu mon obsession depuis toujours pour les sectes. J'en parle dans mon livre, le chapitre L'attirance pour les gourous, en décrivant le comportement d'une coach de théâtre qui avait une très forte emprise sur moi. Phénomène qui a pu se reproduire, hélas. Dans Méta de choc, Elisabeth donne la parole à des gens sortis d'une croyance emprisonnante, car elle-même a su se délivrer des siennes. Je sors cet épisode en deux parties car le témoignage d'Elisabeth est long et poignant. Je ne veux pas que vous perdiez une miette. Dans cette première partie, j'interroge Elisabeth sur son enfance, sa foi catholique à l'adolescence, ses premières rencontres amoureuses. Elisabeth révèle comment elle est devenue adepte de la pensée New Age, persuadée d'être une enfant indigo, venu sur Terre pour sauver la planète. Bonne écoute.
Ah, le backup au cas où.
Ouais, bah
je
écoute.
Je fais pas ça, moi.
Ouais, c'est vrai, tu fais jamais ça.
Je fais pas ça parce que si c'est raté, je suis obligée de le refaire pour la qualité.
Ah ouais. Mais bon, en même temps, tu t'auras jamais le moment de grâce d'un coup d'une blague.
Ça peut rater.
Peut-être pour des récits aussi précis que les tiens, c'est possible de reprendre. Alors que bon, parfois, c'est pas non plus des témoins. Enfin, quoique, s'il y a un moment d'émotion, quand t'as un invité qui se livre, si bim, bug.
Ah oui, non, mais c'est clair. Ça, ouais. C'est la hantise. C'est ouais. De rater, de pas avoir appuyé sur le bouton,
ouais.
D'avoir perdu.
Ouais.
En fait, moi, ça m'est arrivé une fois, mais en tant qu'interviewée.
D'accord.
Où la personne, en fait, on en s'est parlé pendant plus d'une heure.
Ah ouais.
Elle a fait une heure d'enregistrement. Et après coup, elle se rend compte qu'elle n'a pas, le fichier a disparu, en fait.
Mais c'est terrible pour elle.
C'est terrible pour elle. Alors, on l'a refait une semaine après, ce qui était pas mal parce que ça permettait pas d'être dans une répétition automatique. Okay. Genre, on avait dit ça, mais de revenir un truc un peu naturel.
Ouais.
Mais ça m'a... Clairement, je me suis dit jamais...
C'est le pire cauchemar. C'est le pire cauchemar. Mais c'était pas... Au moins, t'as pas la culpabilité. C'était elle qui...
Non, elle se sentait très mal.
Non, mais c'est horrible. Horrible. C'est vrai que c'est pour les acteurs, je pense, le pire cauchemar, c'est d'avoir un trou sur scène. Un trou de texte, et pour les podcasteurs, c'est d'un coup que ça n'enregistre pas, de perdre l'enregistrement.
Les ingé-sons, c'est leur préoccupation principale.
Ouais. Toi, t'enregistres dans un studio avec,
Non, j'enregistre chez les gens en général.
Ok.
Ouais, dans leur salon.
Et t'as pas des soucis parfois d'interférence ou de non
D'interférence, non, mais il y a de la réverb quelquefois.
Ouais.
Donc bon. Après, de toute façon, j'ai un ingé-son qui fait le mixage.
Ouais, derrière, il travaille un peu
sur moi.
Mais je vais commencer par te lire ton poème, Elisabeth. C'est un honneur de recevoir aujourd'hui Elisabeth dans mon podcast. Comment je découvre Elisabeth ? En novembre dernier, je fais une story parce que Les Mecs que je veux ken est dans le top podcast Spotify France et une abonnée me répond sur Instagram que je suis classée juste à côté d'un autre podcast qu'elle adore et me recommande, Méta de choc. Curieuse, je vais écouter Méta de choc et là je deviens complètement fan. Elisabeth invite des personnes ayant sombré dans le mysticisme et qui en sont revenues à partager leur expérience. Je commence avec l'épisode 21, Coaching, l'Eldorado de la manipulation mentale avec Rémi Rivas. Je suis incroyablement soulagée à l'écoute de cet épisode, que mon scepticisme soit partagé. Dans mon milieu d'artiste, les dérives spirituelles vont bon train et j'ai moi-même souffert de l'emprise de coach. Mais les comédiennes se biberonnent au développement personnel. Elles ne font pas seulement du yoga Bikram extrême, elles ont des chamans. Et c'est difficile pour moi de critiquer ces pratiques sans passer pour quelqu'un de fermé. Or, grâce à Méta de choc, je comprends pourquoi je suis fermée et j'apprends à aimer ma résistance à tout ce qui découlerait de la pensée New Age. Au fil des mois, j'écoute passionnément d'autres séries. Au Pays de Jéhovah avec Bertrand l'Anonyme, Yoga, Super Pouvoir et Secte Sexuelle, En Terre Païenne avec Marielle de Vlaminck, Complotisme, Si Loin Si Proche avec Marie Pelletier. Mais ces épisodes sont comme des films, ils laissent une empreinte et marquent, il faut laisser un temps entre chaque. Pour réfléchir, ressentir, revenir par soi, je suis donc heureuse de n'avoir pas à ce jour tout écouté de Méta de choc, je me réjouis qu'il me reste des pépites. Elisabeth, je sais que tu as été invitée partout, Combini, Cosette, Society, mais je te remercie mille fois d'accepter de venir dans mon podcast pour nous parler de toi, de la raison et du cœur, des chemins qui t'ont mené au podcast à mettre le doute au premier plan dans la vie. Merci.
Ah ben merci à toi pour ce joli texte, ça fait plaisir.
C'est tout à fait sincère. Et alors, est-ce qu'on peut commencer par toi, Elisabeth ? Est-ce que tu te souviens des toutes premières croyances que tu as eues enfant ? Est-ce que, par exemple, tu croyais au Père Noël ?
Sans doute.
Tu te souviens plus ?
Non. Je pense que oui, sans doute, oui. Mais c'est pas un truc dont je garde un souvenir émerveillé, comme tu peux le voir. Non, c'est pas... Oui, j'imagine qu'on a dû me faire croire au Père Noël et qu'à un moment donné, j'ai cessé d'y croire, ouais.
Tu croyais à la petite souris ?
Ça, oui.
Ouais ?
Ça, oui, sans doute, oui. Oui, j'ai plus de souvenirs de ça, ouais.
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 De petites dents de lait sous l'oreiller.
Voilà, exactement.
Et d'une souris
avec
qui
une
passe.
Petite pièce.
Ouais. Est-ce que tu croyais en Dieu ?
Ah oui, je croyais en Dieu. Alors, je croyais en Dieu, mais j'y ai cru surtout à partir de l'adolescence.
D'accord.
Moi, je, pour situer le cadre, en fait, je viens d'une famille... Mes parents n'étaient pas spécialement croyants et pas du tout pratiquants. En revanche, j'ai une famille plus élargie, une cousinade, donc les tantes, qui étaient, pour certains, très, très croyants et qui avaient vraiment des principes très
catholiques.
Très catholiques. Catholique bourgeois, il faut que tout le monde, toutes les familles doivent avoir 5 enfants. Donc ça, c'est... Par exemple, j'ai des cousins et cousines qui ont 5 ou 6 enfants, chacun. Mmh. Donc moi, j'étais très impressionnée par mes cousins parce qu'ils étaient plus âgés que moi et que je les aimais beaucoup. Et donc, j'ai adhéré à leurs croyances religieuses. À partir de l'adolescence, il y a un autre facteur aussi, c'est que j'étais assez perdue. Et je cherchais des repères. Et j'avais vraiment besoin, comme j'avais vraiment une grande instabilité, je pense, intérieure. J'avais besoin d'une sorte d'exosquelette, tu vois, qui me tienne debout. Et donc, je me suis vraiment beaucoup intéressée à partir de mes 15 ans à la religion, à tel point que à 15 ans, tu vois, j'ai même fait j'ai pris des vacances chez des cathos traditionnalistes.
Ah oui ?
Ouais. J'adorais l'idée de me mettre à genoux, de prier pendant des heures, tu vois, de faire des trucs un peu où tu le sens passer, quoi, tu vois. Mmh. Tu le sens passer, tu sens que voilà, que t'es en train d'accomplir un truc. Alors, une transe, non. Je dois dire que je ressentais pas grand-chose, mais par contre, il y avait une sorte de but, d'objectif, parce qu'il y a un idéal très fort, hein, dans le traditionalisme. Il y a une pureté, il y a un engagement, et puis il y a beaucoup de rituels. La messe en latin, tu vois, les trucs comme ça, c'est plus d'efforts, quelque part. Ça marque plus l'engagement, on va dire, que d'aller tout simplement à la messe dimanche et puis de faire les choses de manière plus banale, on va dire. Là, il y a un côté un peu plus à part et plus... Ouais, je pense que ça force l'engagement.
T'étais baptisée ?
Oui, j'étais baptisée, j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation. Donc, j'étais plutôt...
Quand même. Ouais. À Paris ?
Alors, moi, je suis née à Paris, mais j'ai vécu assez rapidement, à partir de mes 2 ans, en banlieue parisienne, à côté de Versailles.
Je peux te demander le métier qu'ils faisaient ?
Oui, bien sûr. Alors, mes parents, ils étaient tous les deux entrepreneurs. Ils avaient une entreprise, une petite entreprise du bâtiment. Donc, ils vendaient du chauffage. Et donc, moi, j'ai vécu toute ma vie d'enfance, adolescence, avec des parents qui bossaient beaucoup, beaucoup, beaucoup.
D'accord.
Et qui essayaient de maintenir cette petite PME
à flot.
À flot. Mais pour te situer le cadre, parce que c'est un peu baroque, comme il y avait cette histoire dans la famille de mon père, en fait, de très catholique, etc. Et puis, il y avait aussi une volonté, une sorte de fantasme de l'aristocratie.
Ah.
Et alors, ce qui fait que je vous vois mes parents.
D'accord.
Donc t'imagines, ouais. La fille qui habite en banlieue parisienne, qui a ses parents qui sont chauffagistes, mais qui les vous voit. C'est pas mal comme mix.
Ouais, c'est génial.
Voilà.
C'est génial.
Donc, c'est un mix. Je dirais que socialement, c'est la petite bourgeoisie.
Mais qui aurait
rêvé qui essaye tu vois, d'atteindre quelque chose d'un peu plus grandiose.
Et tes parents, eux, ils étaient croyants, mais toi, tu dirais pas plus que ça. C'était...
Ils m'ont jamais dit qu'ils étaient croyants.
D'accord.
Donc, je pense que pour eux, la religion, c'était pas... Ouais. En fait, je pense que ça les agaçait, ça les intéressait pas, ils allaient pas à la messe. Par contre, s'il y avait des rendez-vous familiaux, des mariages, des trucs, ils étaient pas en train de... Tu vois, ils étaient pas athées, ils étaient pas en train de dire « Non, c'est ridicule, ça sert à rien. » Mais c'était pas une préoccupation pour eux, quoi. Et ils nous ont pas du tout éduqués là-dedans.
Tu t'es pas confessée enfant ?
Ah si. J'ai jamais été à l'église juste avec mes parents, mais socialement, ils m'avaient mis à l'aumônerie.
D'accord.
Du coup, j'avais été au JMJ. J'avais été, je sais plus dans quelle ville où il y a une abbaye, et puis pour faire ma confirmation, je sais pas quoi.
Et dans ce cadre-là, tu te confessais ?
Oui, donc c'était une sorte de, si tu veux, de... C'était plus social, en fait, qu'une réelle conviction de leur part.
D'accord.
Plus une sorte d'appartenance parce que les autres le faisaient,
ouais.
et que pourquoi pas finalement éduquer à une religion
culturellement.
Ils avaient ce fonctionnement-là.
Et toi, tu as des souvenirs de te confesser, c'était quelque chose qui te faisait du bien ou c'était quelque chose qui
non.
te paraît...
Non, pas du tout. La confession, je ne savais jamais quoi dire. Ça ne m'est pas arrivé très souvent. Ça ne m'est pas arrivé très souvent. C'était lors d'événements, comme des sorties encadrées par le diocèse, tu vois, des trucs comme ça.
Mais tu ne savais pas quoi confesser.
Mais attends, qu'est-ce que tu voulais que je 12 dise, ans, quoi, tu vois. Alors du coup, tu inventes un truc, tu dis une connerie. Puis le prêtre, en plus, en face, je pense qu'il n'était pas, pas dupe, tu vois, genre j'ai menti, Bon, ok, super. Non, ça me, quand j'étais petite, ça ne m'affectait pas, ça ne m'intéressait pas spécialement. Je le faisais comme un circuit, si tu veux. Fallait le faire, ça faisait partie du circuit, mais je n'étais pas spécialement motivée jusqu'à ces fameux 15 ans où j'y ai trouvé, où ça venait de moi et j'y ai trouvé une structure. Que j'ai vite quitté, en fait, ces traditionalistes, parce que ce qui m'a choquée, et je suis moi-même étonnée de cette réaction que j'avais à l'époque, c'est que, et qui me ressemble bien, finalement, malgré tout, même si aujourd'hui, je n'irai plus m'agenouiller pour prendre l'hostie. J'étais donc dans un groupe d'ados, et Il y avait vraiment une surveillance très très forte des encadrants par rapport aux ados. Il était hors de question qu'il y ait du flirt, etc., etc. Et il y avait un garçon qui était manifestement amoureux de moi et on m'avait prise entre quatre yeux, moi. Alors, je ne sais pas si on l'avait pris aussi, lui, entre quatre yeux ou pas, mais en gros, qu'il fallait que, quelque part, que...
Tu ne le provoques pas.
Exactement. que je ne sois pas... que je fasse attention et qu'il ne soit pas amoureux de moi. Comme si j'étais moi-même la responsable de cette situation. Et ça m'avait mise mal à l'aise. Et surtout, une fois, on avait eu des cours sur la preuve de l'existence de Dieu, je me souviens à l'époque. Parce que ça, c'est un grand thème du traditionnalisme catholique. Et il y avait des réflexions du style « Non, c'est pas bien d'écouter de la musique dans le métro avec des écouteurs de Walkman, avec un Walkman. » Parce que ça, on est dans les années 80, là.
Ouais.
Attention, hein.
J'avais un Walkman, moi aussi. Hein.
Ouais, d'accord.
Avant le premier iPod, tu sais.
Ah, d'accord, moi, j'ai jamais eu d'iPod.
Oh.
Donc
ça, ça t'avait...
Et là, je m'étais dit, mais... Et là, ouais. je les ai provoqués, je leur ai dit, mais...
Pourquoi c'est...
Ah oui, parce qu'ils disaient, il faut pas... C'est pas bien d'écouter du hard rock avec un Walkman dans le métro.
D'accord.
Et je trouvais ça bizarre. Ouais. Et là, je leur dis, et si on écoute de la musique classique, ça passe ? Et là, ils étaient là, ben oui. Donc, en fait, le problème, c'était pas le Walkman dans le métro, c'était le hard rock. Et j'étais là, mais c'est...
Pourquoi ?
C'est débile. Enfin, ça, c'est le mal, ça, c'est le péché, quoi, tu vois.
Ça, c'est le péché.
Donc bon, chez les traditionnalistes, hein, attention, il y a des règles quand même importantes à respecter.
Mais en tout cas, ça te paraît absurde à ce moment-là.
Ouais, c'est j'ai quitté en plus de cette histoire de me prendre entre quatre yeux, alors que moi, en plus, j'avais aucun intérêt pour ce garçon, j'étais pas amoureuse de lui, donc j'étais même pas en train de flirter avec lui. Enfin, tu vois, je m'étais dit, non mais attends, c'est bon, quoi.
Ouais, c'est injuste, c'est... Et sexiste.
Bah, je ne m'étais pas dit ça à l'époque, c'est avec le recul que je le vois.
Mais une intuition quand même.
Mais je trouvais ça gênant que on vienne me contraindre, tu vois. Bon, en même temps, hein, dans le traditionalisme, il y a de la contrainte. Hein.
Ouais, mais en tout cas, donc tu résistes à ce moment-là. Tu as 15 ans et ensuite c'est le lycée. Tu dirais à cette période que tu es athée ?
Ah non, alors je n'ai pas été athée et je ne suis toujours pas athée.
D'accord.
Et je n'ai pas été athée du tout. Je suis passée de traditionnaliste à charismatique. Donc là, c'est Jésus revient avec la guitare.
Ok.
Voilà.
Plus fun.
Avec des trucs de trance, tu vois, genre, je sais pas, l'esprit entre en moi, etc. Je ne suis pas restée très longtemps non plus. Et puis après, j'ai rencontré une nana dont je suis tombée amoureuse. On s'est installés, on a vécu ensemble pendant 7 ans. Et au moment où j'ai décidé qu'il allait se passer un truc entre nous, je me suis dit, là, il y a un petit hiatus quand même. Ça ne va pas coller avec la religion catholique. J'avais bien vu que, en tout cas dans mon entourage et à l'époque, les cathos, pour eux, les homos, c'était clairement des pervers, des gens qui avaient un problème et qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Alors, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Ça me posait vraiment problème parce que moi, j'avais aussi ce même idéal bourgeois, avoir 5 enfants, me marier, etc. Donc, me dire tout à coup que j'allais coucher avec une nana... Ça a piqué, quoi. Tu vois, là, je me suis dit, il y a vraiment un souci. J'étais vraiment mal. Et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai envie. J'ai quitté le catholicisme.
D'accord. Et, donc, cette jeune femme, tu la rencontres jeune. Donc, tu as quel âge ?
Alors, je la rencontre à 19 ans.
19 ans. À ce moment-là, tu es dans Jesus, un truc religieux, mais chantant.
On s'est rencontrés chez les scouts.
Chez les scouts.
On était cheftaines toutes les deux.
D'accord.
C'est bien pour former les couples.
C'est incroyable. Donc, elle aussi croyante. Donc, vous êtes toutes les deux, à ce moment-là, pratiquantes, mais dans un truc plus joyeux. C'est ça, de la religion, en tout cas.
Elle était catho, ouais.
Ouais. C'est une histoire très sérieuse, donc qui dure plusieurs années. C'est pas au départ, c'est jeune, 19 ans, vous êtes dans un milieu religieux. Bon, vous shiftez ensemble vers le fait de vous dire, en fait, c'est pas possible de pratiquer notre religion et en même temps d'avoir cette identité sexuelle ?
On n'en a pas discuté comme ça. C'était vraiment une réflexion personnelle.
D'accord.
Je me suis dit, là, je vais coucher avec cette fille. Si je couche avec cette fille, je renonce à la religion catholique car je ne veux pas être le vilain petit canard ou la nana qu'on veut remettre sur le droit chemin. Et je ne veux pas non plus être dans une communauté qui ne m'accepte pas telle que je suis dans mes décisions. Donc voilà, elle... en fait, on est restées croyantes toutes les deux. Je ne pourrais pas te dire exactement comment ça s'est passé pour elle par rapport à la religion, par rapport à ça. Je pense qu'elle était moins catégorique que moi. Elle avait conscience bien avant moi qu'elle était attirée par moi, qu'elle était attirée par les nanas en général d'ailleurs. Elle était beaucoup moins naïve que moi. Et on s'est côtoyés quand même pendant 2 ans en étant meilleures amies et en se tripotant plus ou moins avant de passer à l'acte. Donc... pour moi, si tu veux, ça a été un très long parcours de prise de conscience, vraiment. C'est là que je vois l'inhibition que j'avais par rapport à tout ça, où je n'étais pas capable de le voir, mais ça correspond à un cadre social qui était très différent d'aujourd'hui aussi. Alors qu'elle avait beaucoup plus conscience, en fait, de tout ça. Elle voyait l'ambivalence, mais quelque part, elle ménageait la chèvre et le chou. Voilà. Bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on a été ensemble et qu'on a vu que d'un point de vue... que moi, en tout cas, j'ai dit que ça ne m'intéressait pas trop la religion catholique à un moment donné. Elle a dit, pourquoi on ne deviendrait pas protestante ?
Ah, changement.
Parce que, oui, parce que les protestants, dans certaines branches, ça dépend des branches, mais c'est des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de péché, qu'on peut faire des erreurs dans la vie, mais que de toute façon, en gros, le paradis est acquis. Donc, c'est comme ça. Et voilà. Donc, on a été se faire... On a rencontré une pasteur.
D'accord.
Qui nous a accueillis toutes les deux. Super sympa, très, très, très ouverte, etc. C'était franchement un bol d'air. Je t'assure, j'ai senti un poids se lever de mes épaules à la sortie de ce rendez-vous. Parce que c'était vraiment très ostracisant à l'époque d'être homo. Et moi, j'ai jamais été d'un tempérament à me cacher. Et en parallèle, j'avais toute ma famille qui s'était retournée contre moi alors que je les adorais, qui se moquait de moi, qui voulait me trouver un mari, ma mère qui me disait qu'il fallait que je prenne des médicaments, etc. Oh, que j'aille voir un médecin. Non, mais sérieusement,
c'est très grave.
Hallucinant,
c'est
c'était très très violent. Donc je perdais tous mes repères familiaux, sociologiques. Et à ce moment-là, rencontrer cette femme pasteur, pour moi, ça a été vraiment un grand soulagement parce que me suis dit, je peux être acceptée dans une croyance, dans une religion, et donc aussi quelque part plus largement socialement par des gens qui n'y voient aucun inconvénient. Elle était vraiment sincère et très naturelle, vraiment. Et ce qui est assez drôle et un peu frustrant quand on vient du catholicisme, c'est que chez les protestants, il n'y a pas de baptême. Donc ces gens, c'est juste, tu as envie d'être protestant, t'es protestant, tu viens à l'office et puis tu vois, et puis voilà, il n'y a rien. On la rencontre et on ressort et il n'y a pas eu, tu sais, de cérémonie, de rituel, etc. Puisque les protestants s'élevaient historiquement contre toutes ces fioritures catholiques.
Oui, alors que toi, tu étais tellement enthousiaste de cette rencontre que là, tu aurais bien aimé un rite pour marquer ce nouveau passage.
Il y a eu une petite frustration, mais c'était pas...
Ouais, je comprends. Oui, c'est marrant, il y a pas mal de similitudes entre la religion protestante et le judaïsme. Et quand tu dis l'absence de péché, ça doit quand même en faire partie. Enfin, il y a des péchés dans le judaïsme, mais c'est bien moins marqué que dans le catholicisme.
Ouais.
Et donc, à ce moment-là, vous êtes toutes les deux... Il y a un shift, vous êtes plus rattachées au catholicisme, alors quand même que vous étiez chef and scout. Vous êtes en couple, et donc toi, séparée de ta... Enfin, en tout cas, une séparation de ta famille, à ce moment-là...
Oui, gros problème relationnel. Puis moi, j'ai refusé, en fait, de voir les gens qui, en gros, soit me faisaient la morale, se foutaient de ma gueule, ne prenaient pas au sérieux ma vie et mes décisions. Hein. C'était clairement des sous-décisions, des choses vraiment... qui étaient infantiles ou qui n'étaient pas du tout justifiées. Et puis, bien sûr, qui étaient le péché. Hein. Non, j'ai vraiment refusé. J'ai clairement coupé les ponts avec cette famille. Ce qui a été vraiment un déchirement pour moi.
Bien sûr.
Parce que, comme je te disais, j'étais très proche d'eux. C'était vraiment mes amis, en fait.
Et tu ne tombes pas en dépression ?
Si, je pense qu'à cette époque-là, j'étais sans doute dans une période de dépression au sens léger du terme, pas pathologique. D'autant plus qu'à l'époque, ça a correspondu aussi, puisque là, j'avais 21 ans, à mon entrée dans la vie professionnelle. Et ça a été une très grosse déception, mon entrée dans la vie professionnelle. Donc finalement, j'avais mon couple, ma relation avec cette fille que j'adorais, qui était ma meilleure amie, et on s'entendait super bien, et c'était vraiment super. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée à surnager. Donc,
pourquoi déception le milieu professionnel, tu es déçue, pourquoi ?
Je suis déçue parce que toute mon enfance, en fait, j'ai eu une enfance assez solitaire. J'étais souvent, j'étais pas du tout un bouc émissaire, mais j'étais vraiment à côté. J'étais pas du tout insérée, j'avais pas beaucoup d'amis. J'en avais souvent, certaines années, je n'avais pas d'amis. Donc, j'étais beaucoup seule. Et je n'arrivais pas à m'intégrer, à être en accord avec les groupes de filles, ou même je jouais, en plus j'étais assez garçon manqué, donc je jouais quand même avec les garçons, donc ça c'était sympa, mais je m'intègre toujours pas dans les groupes et les communautés, c'est pas mon truc, et donc les groupes de copains, de copines, tout ça, c'est pas du tout ce que j'avais, ça m'intéressait pas, et voilà. Donc il y avait une certaine solitude, et je me disais il y a cet écart entre moi et les autres. Mais sans doute que quand je serai adulte, parce que je voyais bien que j'avais une grande maturité et que je m'entendais beaucoup, vraiment bien avec les adultes, je me disais quand je serai adulte, bah, je serai parmi mes pairs. Et je trouverais une connivence, je trouverais... Voilà,
T'attendais d'être adulte.
Voilà, exactement, j'attendais d'être adulte, c'est exactement ça. Et pour moi, le passage à l'âge adulte, c'était symboliquement vraiment le moment où j'allais être indépendante et où j'allais travailler, j'allais être autonome financièrement. Et il se trouve que j'ai fait des études en commerce qui ne me convenaient pas spécialement. Et je suis arrivée dans mon premier emploi chez Nestlé, j'étais commerciale. Donc j'étais avec ma voiture et j'allais de supermarché en hypermarché de la région normande pour aller placer des yaourts. Nestlé,
quand on te connaît aujourd'hui, on se dit c'est impossible. Enfin, de te connaître de tes principes politiques, c'est difficilement associable à Nestlé, quoi.
Voilà. Alors, écoute,
à l'époque,
écoute, tu sais, hein, je suis une famille, comme je te disais, d'entrepreneurs, de gens qui veulent être au-dessus du panier, etc. Donc, sur le haut du panier plutôt. Donc voilà. Donc, j'étais dans cette tradition-là. Même si j'aurais préféré être journaliste d'ailleurs à l'époque, mais bon, il s'est trouvé que ça ne s'est pas fait, que j'ai fait des études de commerce qui ne m'ont pas passionnée. Et donc, je fais ces... Bon, déjà, ça n'a rien d'exaltant, hein, en tout cas pour moi, d'être commerciale, de vendre des choses, etc. J'avais une difficulté relationnelle, comme je te le disais, donc devenir commerciale, ça m'a beaucoup appris, mais c'était difficile, parce qu'il faut... créer une relation de confiance avec son client, qui est un client qu'on revoit souvent, puisque c'est des hypermarchés, des acheteurs d'hypermarchés. Et voilà, c'est assez dur comme milieu, hein, la grande distribution. Et surtout, là, je me suis dit, mais parmi mes collègues, les gens qui sont entrés comme moi, qui ont été formés dans la maison Nestlé en même temps que moi, mes supérieurs hiérarchiques, et puis les autres adultes autour de moi, mais je ne me sentais pas beaucoup mieux qu'avant. Je ne me sentais pas du tout plus en connivence, plus en accord, plus comprise ou comprenant mieux les autres, etc. Et là, ça a été vraiment une énorme déception aussi. Ça a été très dur. Voilà. Je pensais arriver à un moment de soulagement et je ne l'ai pas vécu du tout. Donc, c'était un peu le coup de massue, du coup.
Ouais, et t'étais d'autant plus isolée, puisque donc coupée de ta famille, pas épanouie professionnellement. Finalement, la seule issue de secours, c'était cette femme.
Oui, et vraiment, j'étais très épanouie dans ma relation avec elle.
Ouais.
Amoureuse, c'était vraiment très bien. Et j'ai découvert plein de choses avec elle, notamment l'expression de mes sentiments, des choses que j'avais complètement inhibées en lien avec ma culture familiale, hein, où il était hors de question d'exprimer ses émotions. De dire ce qu'on pensait même, hein. C'est-à-dire que les enfants, ils sont pas intéressants jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, ou même plus quand ils sont vraiment adultes, et que voilà, là peut-être qu'ils diront des choses intéressantes, mais en attendant, non.
Tu t'es.
Voilà, exactement. Donc il y avait un côté extrêmement strict et violent dans ma famille, en fait, nucléaire, violence physique et morale, hein, puisque on était battus à coups de fouet, hein, donc c'était assez violent. Mais moi, ce qui m'a le plus fait mal, je dirais à l'époque, c'était plutôt ce fait qu'on ne pouvait pas s'exprimer. Et donc ça, pour moi, c'était une violence morale qui a eu des répercussions très 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 longtemps dans ma vie et qui a contribué au fait que je n'arrivais pas à communiquer avec les gens à l'école. Et plus tard, j'étais vraiment à côté de la plaque parce que comme je ne me connaissais pas, puisque je ne nommais pas mes émotions, je ne pouvais pas les exprimer, et qu'elles m'étaient interdites, ce qui fait que je me conforme, en fait. C'était ça, l'objectif.
En tout cas, c'est ça que je ressentais, on va dire, si on veut être, essayer d'être le plus juste possible vis-à-vis de mes parents qui ont fait sans doute le mieux qu'ils ont pu. En tout cas, moi, j'ai essayé de me conformer à ce que je pensais qu'ils voulaient de moi, ce qu'ils attendaient de moi. Donc, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup d'inhibition de ce que je pouvais ressentir. Et donc, cette femme avec qui j'ai vécu 7 ans, elle m'a vraiment apporté ça parce qu'elle m'a tout de suite posé des questions sur mais qu'est-ce que t'aimes dans la vie, qu'est-ce que tu ressens. Et j'étais incapable de lui répondre. Ça te donne le niveau du truc, quoi.
Est-ce que tu as des frères et sœurs ?
Ouais, j'ai un frère.
Lui aussi
plus
a été
jeune
battu.
Que moi. Ouais, ouais. Bon, lui, il a été envoyé en pension. Donc, c'était pas super sympa non plus. Mais par contre, récemment, il m'a dit, ça m'a frappée, parce que je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Enfin, je m'y attendais pas. Il m'a dit, mais tu sais, quand je suis partie en internat, il est parti assez jeune. Il était en CE1, je crois. Je ne me souviens plus. Je crois que c'était... Ou alors c'était collège. Je ne me souviens plus, CM2. Bon, bref. Bref, assez jeune, en tout cas. Voilà, il est parti assez jeune. Enfin, moi, c'est l'idée que j'en ai quand je le voyais partir le dimanche soir pour sa pension. Il était petit. Et il m'a dit récemment, tu sais, c'était pas facile, la pension. Mais tu sais, quand j'étais en pension, je me disais... Je culpabilisais de t'avoir laissée toute seule avec eux. J'ai dit, ah ouais, carrément. Donc, bon. Ouais, effectivement, non, c'était pas facile. Hein. C'était pas facile.
Mais c'était tes deux parents qui te battaient ou c'était...
Oui, c'était les deux. Alors, c'était principalement ma mère. Et puis, quand ma mère n'arrivait pas à nous maintenir comme elle voulait, bah, c'était mon père qui prenait le relais. Et voilà. Donc, il y avait cette espèce d'échelon supplémentaire. Mais après, moi, j'étais, au contraire, contrairement à mon frère, s'il a été envoyé en pension, c'est qu'il était assez... Il correspondait vraiment pas à ce qu'on attendait de lui à plein d'égards, alors que moi je correspondais.
Tu te pliais.
J'étais docile. Wow. J'étais docile. Alors j'avais du caractère, mais j'étais docile dans le sens où j'ai eu la chance d'aimer l'école et du coup j'avais les résultats qui correspondaient. J'étais très bonne élève. J'étais une bonne élève, disons. J'ai eu plus de problèmes à partir de l'adolescence, mais voilà, j'étais plutôt bonne élève. Donc, j'ai toujours été autonome, je faisais mes devoirs, je faisais ci, je faisais ça. Enfin, voilà, j'essayais de faire ce qu'on attendait de moi. Pour moi, c'était important de correspondre et d'être appréciée par mes parents, bien sûr, comme tous les enfants. Et donc, ma manière de le faire, c'était de me plier à leurs exigences sous-entendues, en fait. Leurs exigences induites que je soupçonnais, voilà.
Et tu t'étais jamais plaint à d'autres adultes d'être battu, des profs, des...
Non, pas du tout. Et une fois, je me souviens que ma mère m'avait fouetté. Alors, on avait des troènes. On habitait donc en banlieue, une maison entre quatre champs, et on avait un grand jardin, donc ça c'était super, on pouvait s'amuser tout ça, avec des arbres, etc. Et il y avait des troènes autour de la propriété, c'était une maison un peu de banlieue, quoi, rien d'exceptionnel. Avec les troènes, c'est des haies d'arbres.
Ah
c'est
d'accord, je ne savais pas.
C'est un arbre. Okay. Un troène est un arbre.
Okay.
Et c'est un arbre assez particulier qui est souvent utilisé pour faire des haies. Parce que c'est des branches fines, multiples, avec plein de petits feuillages. Tu vois ?
Voilà.
Et ma mère prenait en fait... donc c'est là le côté, tu vois, tu te dis, il y a un côté sadique, quoi. Elle prenait devant nous une tige de troène, une petite branche. Donc c'est fin, ça fait maximum un centimètre, plutôt la moitié d'un centimètre, tu vois, comme épaisseur.
Ouais.
Et elle l'effeuillait. Elle enlevait toutes les feuilles, elle enlevait les petites branches, etc. Et elle en faisait une espèce de cravache, en fait, tu vois. Et une fois, je me souviens que elle m'avait fouettée, c'était en été, et j'étais sans doute, j'étais en maillot de bain sur la balançoire. Elle m'avait fouettée, et donc là, il y avait des marques, quoi.
Ah ouais.
Clairement, il y avait des marques. Et le lendemain, en allant à l'école, elle m'a dit tu en parles à personne, hein. J'ai dit, non, évidemment, j'en parle à personne. Tu vois, je ne considère pas que j'étais pas enfermée dans un placard pendant des heures, malnutrie, traitée comme de la merde. Non, c'est juste qu'il y avait cette espèce de violence banale qui est forte. Mais pour moi, ce que j'ai mal vécu, ce n'est pas ça. Tu vois, ce que j'ai mal vécu et ce qui a laissé des séquelles, c'est vraiment beaucoup plus l'interdiction, la non-éducation à l'émotion, à la compréhension de soi, à la connaissance de soi. Tu vois, alors je me suis bien rattrapée.
Hey. Donc cette femme t'éveille, donc c'est ça, au sentiment, au fait de pouvoir les exprimer, de dire ce qu'on aime dans la vie. Mais c'est aussi cette femme qui te fait shifter. Non, c'est pas elle. C'est une autre femme après.
Oui, c'est après.
Donc vous restez, donc ça c'est un amour qui dure 7 ans,
ouais.
Très sain. Qui
se passe bien,
qui se passe bien. Voilà. Vous vous séparez la vie.
Voilà.
Et ensuite, tu fais une nouvelle rencontre.
Oui, là, je rencontre une deuxième femme avec qui je vais vivre 13 ans.
D'accord.
Et avec qui je vais avoir un enfant. Et elle, par contre, quand je la rencontre, elle est dans une croyance forte déjà. Elle est dans les croyances spirituelles qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, il faut situer, c'était en 99. En 99, donc il y a longtemps déjà. Eh bien, elle faisait partie des rares personnes en France qui avaient ce type de croyance. Donc elle croyait à la loi d'attraction, elle croyait aux pensées positives, elle croyait à l'univers est amour, elle croyait voilà, à tout ce qu'on... Toutes ces choses, le féminin sacré, t'es dans les énergies,
ouais. Hein,
dans les soins thérapeutiques alternatifs. Donc elle m'a introduite à tout ça. Et comment elle m'y a introduite ? Par le développement personnel. Elle, son truc, c'était le rebirth, la respiration consciente, donc une pratique qu'on connaît un peu moins aujourd'hui, enfin, qui a eu son heure de gloire dans les années 70, 80, 90, surtout aux États-Unis, et puis qui s'est un peu développée en France, il y a différentes écoles. Et moi, donc, elle m'a introduite à ça. J'y ai trouvé... j'étais très intéressée de me connaître, en fait, hein, puisque j'avais été introduite déjà par cette première relation avec cette première femme, à mes émotions, à l'expression de... Voilà, à essayer de comprendre aussi ce qui s'était passé avec mes parents. Hein, tout ça, ça m'intéressait. Et donc, dans le développement personnel, c'est justement le lieu pour le faire. Mmh. Et avec un cadre particulier, des croyances qui ne sont pas nommées comme croyances, mais comme des connaissances, qui vont nous permettre de décrypter notre vécu personnel. Et de changer, d'évoluer, de ne plus souffrir, etc., de se sentir mieux dans sa vie. Donc moi, j'ai côtoyé ce milieu de la respiration consciente pendant une quinzaine d'années, on va dire, voilà, 13 ans.
Oui, au début, ça ne fait pas peur. Au début, c'est une continuation de l'exploration des sentiments, c'est une continuation de se sauver, penser par soi, et être... oui, ça a l'air très sympathique, tic comme ça sur le papier, mais comment est-ce que de ce pratique de respiration qui existe dans le théâtre, hein, ça me fait penser, enfin c'est très, ça m'étonne pas que ce soit Los Angeles parce que c'est aussi des méthodes d'acting et il y a un côté hippie, il y a un côté années 70, il y a un côté sur la plage, etc., bandeau et tout. mais tu te mets donc pendant ces 15 années à partir de là à aussi croire donc aux Illuminati, aux reptiliens, tout ça.
Alors ça, c'est venu vraiment très, très progressivement.
D'accord.
Ce à quoi j'ai cru, vraiment, au départ, ce qui était vendu par cette technique-là, qui vient de la Californie, qui vient de l'Institut Esalen, qui est le grand hub, l'endroit d'où sont partis énormément de thérapies alternatives hein, qu'on connaît aujourd'hui, d'expériences hippies des années 70. C'est le fait que tes pensées créent ta réalité. Ça, c'était le motto, la chose la plus fondamentale de cette pratique. Alors, qu'est-ce que cette pratique ? C'est une pratique qui te met dans un état modifié de conscience par une technique de respiration qui va hyper-oxygéner ton cerveau. Donc, en hyper-oxygénant ton cerveau par une technique de respiration, tu vas, dit-on, avoir accès à des expériences particulières, des zones de ton cerveau qui ne sont pas activées par une respiration normale quotidienne, et aussi potentiellement à des expériences passées que tu avais oubliées, des expériences même de vie antérieure, pourquoi pas. Et par la prise de conscience de ces événements, par le fait de les retraverser, de les revivre, tu vas pouvoir les dépasser. C'est ça le principe de cette pratique. Donc effectivement, c'est intriguant, c'est intéressant. Moi, j'ai apprécié de faire ces respirations, de vivre effectivement des états modifiés de conscience. Donc, c'est très enivrant. On peut vivre des choses agréable, désagréable, mais toujours avec cette espèce de compréhension au moment où on les vit, que c'est pas grave parce qu'on est bien en fait allongé dans une salle et qu'on n'est pas en train de réellement vivre cet événement, on est juste en train de le revisiter et on est confortablement accompagné par d'autres personnes qui sont formées pour ça. Donc il y a un accompagnement, il y a aussi tout un tas d'autres personnes qui participent à ces séminaires ou ces stages, etc. Et finalement, dans ce cadre-là, moi, j'apprends à communiquer avec les autres, j'apprends à être à l'écoute de moi dans des circonstances hors du commun, dans des circonstances hors du quotidien. Et le problème, c'est que non seulement, c'est pas parce que tu hyperventiles ton cerveau que tu as accès à des informations qui sont vraies. Ça peut être tout simplement des délires.
Ouais,
ça peut être des choses qui sont en fait inventées de toutes pièces. Hein. Le cerveau, il est très fort pour ça. Il n'y a pas de souci. Et d'autre part, les interprétations que tu vas faire de ces choses-là sont des interprétations qui sortent directement des dogmes qui sont proposés par ce mouvement. Donc, les énergies, tes pensées créent ta réalité. Par exemple, tu peux vivre indéfiniment, dont la mort n'existe pas. Tout un tas de choses quand même, si tu veux, qui te sortent un peu quand même du réel.
Ouais.
Alors, je dirais que ça peut être anecdotique si c'est des choses que tu fais à la petite semaine et puis que tu ne fais pas trop longtemps. Mais au bout d'un moment, ça va forger ta manière de penser, de raisonner, de prendre des décisions. Les synchronicités, tu vois, par exemple, le fait que si deux événements se produisent en même temps, c'est que c'est un signe. C'est un signe de l'univers, il faut que je le prenne en compte. Et comment je vais prendre en compte que deux choses arrivent en même temps, ça va me faire prendre des décisions que je n'aurais jamais prises si je n'avais pas accordé d'intérêt, d'importance aux synchronicités, tu vois. Donc voilà, bon, après sans compter aussi le fait que tu dépenses de l'argent dans tout ça, que j'ai dépensé de l'argent dans ces stages, j'ai dépensé de l'argent dans des séances individuelles avec des praticiens, j'ai dépensé de l'argent aussi au bout d'un certain nombre d'années en suivant une formation pour moi-même devenir thérapeute en respiration consciente. Donc, il y a un engagement de ma part qui n'est pas en demi-mesure.
Tu le fais à fond, comme toujours. Et c'est en France, tous ces stages.
Ouais, ça, c'est à Paris. Ouais.
Tout ça, c'est à Paris. Tu ne pars pas à Los Angeles, ni en Inde, pas de stage à l'étranger.
Alors, non, dans un premier temps, moi, je vis tout ça de manière tout à fait normale, on va dire, dans le sens où j'ai pas... Alors, bien sûr, mon entourage se modèle quand même beaucoup en fonction de la personne avec qui je vis à l'époque. Et les gens qu'on rencontre dans ces stages, parce que pour elle, c'est très important. Et elle a été initiée, endoctrinée à ces choses-là bien avant de me rencontrer, déjà par sa précédente copine. Elle a eu différentes expériences déjà dans cette pratique-là.
Et c'est
dans le milieu New Age. Elle n'est pas encore thérapeute, mais elle va se former. On va se former ensemble, en fait. Et aujourd'hui encore, elle l'est. C'est très présent dans notre vie. On va commencer à avoir des amis qui viennent justement de ces stages, etc. Mais on reste dans une certaine normalité. C'est juste en privé, dans nos modes de décision professionnels, personnels, etc., que ça peut avoir un impact. Évidemment, on va être évidemment moins attiré par des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. On se ferme un certain nombre de personnes, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas partager ça, et c'est quelque chose d'important pour nous. Mais je dirais que l'accélération, pour moi, elle est venue une fois que j'ai rompu avec cette femme.
Ah !
Ouais, et que je me suis retrouvée seule, et très, très, très heureuse d'être seule, très heureuse de quitter cette relation. Pendant 2 ans, j'ai fait plein d'expériences, en fait. Pendant 2 ans, j'ai vécu un célibat qui m'a vraiment bien convenu. J'étais très, très satisfaite de ça. C'était vraiment un choix. Et là, je vais très profondément, de plus en plus profondément, dans ces croyances, par différents biais. J'ai vraiment une quête de vérité à ce moment-là. J'ai une quête de vérité ultime. Je cherche... je me rends compte qu'il y a des choses qui sont promues, prônées par... dans ce milieu, dans le milieu spirituel, comme la proximité avec la nature, l'éveil, différentes choses que je n'arrive pas à ressentir, que je n'arrive pas à vivre. Et je trouve ça problématique, parce que apparemment, c'est important quand même de les vivre, ces choses-là. Et bon, moi, je suis très urbaine, j'aime beaucoup aller marcher, etc. Mais je ne sens pas de connexion spirituelle avec la nature à ce moment-là.
Ça te frustre.
Et ça me frustre et je me dis, là, je suis en train de passer à côté d'un truc. Et il y a tellement de bouquins, tu sais, à l'époque. Ouais. Moi, je lisais déjà à l'époque, même avant, évidemment, ma rupture, on avait une bibliothèque avec Conversation avec Dieu, des bouquins de Deepak Chopra, Eckhart Tolle. Enfin, tu vois, il y avait voilà, toute la panoplie. Et tous ces bouquins, ils parlent de ça, tu vois.
Ouais.
Comment vivre, en gros, être la meilleure version de soi-même et avoir un niveau spirituel élevé et donc vivre le bonheur et connaître la vérité.
Et connaître les animaux dans lesquels on se serait peut-être réincarné.
Oui, oui,
vie,
oui.
Tout ça.
Oui, ouais, bien sûr, communiquer avec les animaux. Enfin, y a un tel potentiel aussi, c'est ça. Tu sais, il y a un côté tellement émerveillant. Tu te dis, mais j'ai pas envie de passer à côté de ça, j'ai envie de connaître ça. Tu vois ?
Bien sûr.
Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me disais. J'imagine bien qu'il y a plein de gens, ils se disent, bah non, non, moi, j'ai pas envie de vivre ça. Mais
toi, tu veux pousser la chose plus loin.
Exactement. Et là, je suis toute seule chez moi. Et je commence à faire des expériences. Alors, je vais faire un stage une fois. Alors, je commence à lire un bouquin qui s'appelle Un cours en miracle. Un cours en miracle, c'est un best-seller international écrit en channeling par une Américaine. Donc, qu'est-ce que c'est que le channeling ? C'est le fait qu'on reçoit un message, on est
la
personne qui...
La chaîne, ouais.
Exactement. Ouais. On est le canal d'une entité qui va nous dicter un livre. Alors, un livre ou autre, hein, mais disons que les personnes qui ont contribué à la création de ce livre se disent canal et ont reçu ce message. Et donc, Un cours en miracle, c'est un bouquin en papier Bible, pour donner déjà l'ambiance, très très épais, qui propose notamment 365 leçons pour reprogrammer son mental. Et donc, chaque jour, tu vas avoir une leçon avec quelques exercices, notamment de méditation, où tu vas rencontrer le Christ en toi et tu vas pardonner aussi, acquérir la capacité de pardon universel qui te permet de grandir spirituellement et de rentrer dans une autre dimension. Et moi, à l'époque, j'étais vraiment emballée par l'idée de reprogrammer mon mental, de reprogrammer et de confier mon esprit à des gens qui sont reconnus comme des sortes de maîtres et qui vont pouvoir... Donc, tu vois, je faisais pas appel à un gourou, à une communauté. J'étais pas, heureusement pour moi d'ailleurs, je pense, parce que j'étais tellement dans une sorte de radicalisme dans ma démarche que j'aurais pu me retrouver dans des situations très critiques si j'avais été dans un cadre comme ça, tu vois, communautaire. Mais comme c'est pas ma tasse de thé, j'étais toute seule et du coup, j'ai été très loin et j'ai passé beaucoup, 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 beaucoup de temps de mon quotidien, tous les jours, à travailler là-dessus. Donc déjà, premièrement, j'ai commencé à faire ce cours en miracle et un jour, je sors du métro et là, j'ai une extase mystique.
Okay.
Je le nomme pas comme ça sur le coup, mais je suis vraiment dans un état extatique. Mm-hmm. Donc, si je dois décrire, de joie ultime, de l'impression d'être sur un petit nuage. Et je suis dans je sors du métro dans le 18e place de Clignancourt, tu vois, rien de... rien, je suis pas lourde, tu vois.
Ouais, et t'as pas pris de substance non plus.
J'ai pas pris de substance, je ne prends pas de substance, je n'ai jamais pris de substance.
Ça arrive comme ça.
Ça arrive comme ça et ça me saisit. Et pendant, je sais pas, bien 2 heures, je suis dans cet état que je maintiens. Parce qu'il est tellement agréable et tellement, tu vois, j'aurais pu en sortir en faisant un truc. Ouais. Et je note sur le papier des choses. Mais en écrivant, en fait, je rentre dans la réalité. Et au bout de 2 heures, je sors de cet état. Et là, je me dis, waouh, extraordinaire. Enfin,
je suis devenue moi-même réceptacle canal.
Je me suis dit que là, j'avais vécu une union avec le grand tout.
Ouais.
C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit que j'avais vécu une expérience extraordinaire, en deux mots. Et j'étais très heureuse de ça. Et surtout que c'est un sentiment de joie que j'ai vécu. Ouais. C'est vraiment un sentiment de plénitude intense, une grande intensité. Là-dessus, quelques semaines ou mois après, je m'inscris à un stage pour... Enfin, pas un stage d'ailleurs, une après-midi de marche dans la forêt de Fontainebleau avec un chaman druide. Un druide.
Et tu manges à ce moment-là, tu t'alimentes normalement. Ça ne peut pas être des états causés par l'anémie ?
Oui, je mange normalement.
D'accord.
Mais effectivement, c'est une bonne question, parce que l'alimentation est très importante hein, dans ce type d'état modifié. Mais je pense que la méditation et puis cet état tu vois, de concentration permanente sur cet objectif a joué.
Ouais, c'est ce que tu cherchais.
Après, je ne peux pas dire que ce soit ça qui l'ait causé, uniquement en tout cas, parce que ça reste inexpliqué pour moi. Ce n'est pas quelque chose que je peux ni décrire précisément, ni expliquer. Donc je reste dans... Et quelque part, ça ne me dérange pas du tout de ne pas savoir. Hein. Je ne cherche pas d'interprétation particulière là-dessus. Mais à l'époque, évidemment, je me jette dessus avec des interprétations. Je me dis, là, je suis en communication avec le grand tout. Je suis un avec le monde. Je vis ce qui est prêché, là. Tu vois, ce que les gens annoncent dans les bouquins. Je suis en train de vivre ce que je voulais vivre.
Ouais, c'est ça. Voilà. T'es une bonne disciple. T'as pas de délire mégalo à ce moment-là?
Si, quand même, assez rapidement, je me dis, là, effectivement, j'ai un pouvoir. Mais attends la suite, parce que je me retrouve dans cette forêt de Fontainebleau avec ce druide. Le but étant, et c'est pour ça que je m'y étais inscrite, de communiquer avec la nature.
Ce qui te manquait.
Voilà. Donc là, on fait une balade, il nous explique que tel arbre a telle énergie, qu'il sent que tel arbre est un peu recroquevillé sur lui-même, ce serait bien de nettoyer autour pour lui donner un peu d'espace... que telle pierre, truc, machin, les minéraux, la vie végétale, les portails spatio-temporels. Enfin, moi, c'était OK. J'étais tout à fait là, prête, endoctrinée suffisamment profondément pour pouvoir entendre ce genre de choses. Il n'y avait pas de souci. Et puis, à un moment donné, il nous dit, maintenant, on va essayer des choses. Donc, vous allez vous mettre vos bras le long du corps et puis vous allez commencer à sentir vos énergies. Moi, je n'avais jamais senti mes énergies, hein. Donc, c'était très abstrait pour moi. Donc, je mets mes bras le long du corps. Et il dit, si vous avez les bras qui peuvent commencer à se soulever tout seuls, en fait, vous allez, ils vont se soulever jusqu'à la largeur de votre aura. Donc, le corps éthérique qu'on peut avoir autour de son corps physique.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ou corps astral, etc. Et là, à ma grande stupéfaction, mes bras se lèvent, tout seuls. Alors là, je peux te dire, ça a été jouissif, quoi.
Ouais, incroyable.
Et on était plusieurs, hein, donc, dans le truc. Et alors moi, j'avais les bras qui se levaient, c'était un truc de fou, quoi.
Et tu te dis pas, il nous fait une séance d'hypnose?
Ah, je me dis rien du tout, j'ai aucun sens critique de rien. J'ai zéro esprit critique.
Tu te dis, c'est génial.
Moi, je ne souhaite que croire. Mais c'est vrai, je voulais.
Et puis, en plus, tu vois que ça fonctionne. C'est-à-dire que tu es à ce stage sur un endroit où ça n'a pas encore eu lieu et ça se produit. Donc, c'est génial à ce moment-là.
Exactement. Okay. Mais c'est juste une preuve. Pour moi, c'est clairement de la preuve solide. J'ai zéro éducation à l'esprit critique hein, dans ma famille ou à l'école ou quoi que ce soit. Donc, ou dans mon entourage. Je découvre bien plus tard, l'esprit critique, la pensée critique, etc.
Tes bras se soulèvent.
Mes bras se soulèvent et ils montent même très fort. Parce qu'après, il nous dit de sentir l'énergie de l'arbre. On se met devant un arbre assez imposant, etc. Comme on peut en trouver dans la forêt de Fontainebleau. Et puis là, il nous dit, maintenant, vous vous projetez sur... vos bras vont se lever à la hauteur de l'énergie de cet arbre. Et là, mes bras se lèvent à la verticale. Quasiment. Donc, je sens que mes mains sont poussées, en fait. Hein. Je sens que mes bras sont poussés par une force, en fait, hein, qui se lève. Donc là, je me dis, c'est hallucinant. Et je vois les autres, ils n'ont pas la même expérience. Enfin, il y a des bras qui se lèvent un peu, mais ils ne sentent pas la même chose que moi. Donc, je me fais repérer par le druide qui me dit, Elisabeth, tu veux nous faire un peu de... On fait quelques exercices et puis... machine à la mal à la gorge, vas-y, mets ta main devant sa gorge, parce qu'il était guérisseur aussi, etc. Donc, envoie de l'énergie. Donc, projette mentalement de l'énergie par ta main. Et donc, je commence à faire ça. Et donc, quelque part, pour moi, ça a été une initiation à cette technique-là, qui était étrangère hein, à la respiration consciente, qui n'a rien à voir avec tout ça.
Le magnétisme.
Voilà, exactement, une introduction au magnétisme. Et j'ai senti, à partir de ce jour-là, les énergies dans mes mains. Et j'ai senti l'énergie de Laura, etc., etc., etc. Et je suis partie vraiment en roue libre. À partir de là, pendant quelques mois, j'étais à fond. Je faisais plein d'exercices chez moi, je me fixais plein d'objectifs. J'essayais de réduire les énergies négatives, je sentais les énergies négatives, les énergies positives. Je faisais plein d'exercices, plein de choses. Et je faisais beaucoup de méditation. Je m'étais fait initier à la méditation Vipassana. J'avais fait le stage des 10 jours dont on parle dans l'émission sur le yoga. Et j'avais aussi ressenti beaucoup de choses extraordinaires dans mon corps, etc., etc. Bref, vraiment des choses, tu sais, des choses physiques. Et à l'époque, alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça, parce que je sais maintenant, et je ne savais pas à l'époque, qu'on peut ressentir des choses physiques, et c'est pas pour autant qu'elles ont une cause qui n'est pas interne.
Bien sûr.
Bien sûr, dit-elle.
Après, c'est d'autres croyances, mais l'inconscient est puissant.
Oui, alors il y a effectivement la suggestion personnelle, l'autosuggestion, l'inconscient et tout un tas de choses sont extrêmement puissantes. Et il y a beaucoup de recherches scientifiques là-dessus, d'ailleurs, qui montrent à quel point on peut faire ou faire faire des choses. C'est extraordinaire, c'est très impressionnant ce qu'on peut voir dans certaines expériences scientifiques. Et à l'époque, moi, j'avais zéro idée de tout ça. Donc voilà. Donc
tu testes tes pouvoirs sur des patients ?
Alors, je reçois quelques clients, on appelle ça des clients dans le milieu alternatif et pas des patients, parce qu'on n'est pas dans le milieu médical. Mais oui, je commence à... Disons que les quelques clients, j'en ai pas eu énormément. Hein. J'étais pas hyper convaincue par ce que je pouvais proposer aux gens dans le domaine de la respiration consciente à laquelle je m'étais formée. Mais c'est vrai que j'utilisais aussi la main.
La nana, tu l'avais guérie à la gorge ou pas ?
Et voilà, oui. Ah, alors ouais. Effectivement, à la fin du stage, la fille dit « Ah bah ouais, j'ai moins mal à la gorge.
Ah » ouais. Donc c'est la preuve.
Mais oui. Voilà, j'étais guérisseuse.
Mais oui, et certainement, c'était vrai pour elle. Enfin...
Écoute, après,
c'est,
voilà.
C'est...
Peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, y a plein de raisons aussi pour lesquelles un mal de gorge peut s'atténuer.
Ouais,
oui.
Mais voilà,
moi j'ai revu plusieurs fois cette personne que j'avais, sur laquelle j'avais fait une imposition des mains, ce druide, etc. Mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis finalement... Je me suis retrouvée dans une situation, j'étais tellement allée loin. Alors, je suis partie en Inde aussi.
D'accord.
Je me posais la question de savoir si j'étais
ouais.
en Inde.
Ouais.
Je suis partie en Inde parce que pour des synchronicités, j'ai décidé sur un coup de tête que bah oui, les signes me disaient qu'il fallait que j'aille en Inde. Étonnamment, bizarrement, mais oui, bien sûr. Et là, je suis partie en Inde, j'ai été faire une marche en solitaire de 10 jours en Inde, dans le sud de l'Inde, en sac à dos, avec un vélo que j'ai acheté sur place. Et j'ai fini en apothéose par une méditation Vipassana en Inde. Pleine de moustiques qui te piquent au travers de tes vêtements. Donc même tu mets des chaussettes alors qu'ils crèvent de chaud, tu mets des chaussettes, on te pique quand même, c'est atroce. Je ne conseille à personne la méditation Vipassana en Inde pendant la période des moustiques.
Mais ce qui est fou par contre, c'est le fait que tu arrives à faire tout ça toute seule encore une fois. D'abord avec des livres et ensuite c'est des tests chez toi. Mais c'est-à-dire que tu pousses l'expérience, tu te dis pas, tu ne suis pas le druide en fait, tu te détaches de la figure d'autorité pour vivre l'expérience par toi-même.
Ah oui, tout à fait, oui.
Ouais.
Et à l'époque, je ne suis pas non plus dans des trucs vidéo ou quoi que ce soit, je suis personne en particulier. Je me suis vraiment auto-endoctrinée moi-même.
C'est fou.
En m'entourant des outils, des personnes qui me semblait utile au moment où j'en avais envie, ou aussi, bien sûr, par le fruit du hasard, où je rencontre telle ou telle pratique. Voilà. Mais oui, non, j'étais solitaire dans mon délire, dans mon projet, dans mon ambition de connaître l'éveil. J'avais là, à ce moment-là, vraiment, au bout de ces 2 ans de vie seule, etc., j'étais... Donc, de vie, je dis seule, je voyais des gens, mais j'avais vraiment une vie ascétique. J'avais vraiment une vie très tournée vers cette pratique spirituelle, vraiment. Et donc, vraiment radicale. Vraiment, je le dis, radicale. Et j'en suis arrivée à un point où je sentais en permanence les énergies, puisque je m'entraînais énormément. Donc, je sentais beaucoup, beaucoup, beaucoup les énergies, négatives, positives, où que j'aille. Et j'aimais le faire. C'est-à-dire, je testais tout. J'étais comme dans une sorte de prépa, tu vois, avant l'éveil. Et donc, je bossais tout le temps. Je bossais tout le temps pour acquérir les compétences, la connaissance, etc.
Tu te sentais des qualités de voyante ?
Et tu me posais la question de savoir si j'étais mégalo. Oui, là, à ce moment-là, oui. Là, je pensais que j'avais un pouvoir particulier, que j'avais vraiment quelque chose que je pouvais apporter à la planète, que je pouvais, en tant qu'enfant indigo, j'avais une mission de vie. Et comme à l'époque, c'était en 2014. Bah, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui, hein. Ouais. Je veux dire, ça parlait pas de féminin sacré sur Internet, hein. Tu vois, ça parlait pas de loi d'attraction à tout bout de champ. Et les gens à qui j'en parlais, c'était des gens que je testais avant pour savoir s'ils étaient ouverts. Pas pour savoir s'ils connaissaient, parce que personne ne connaissait. C'était pas, c'était peu courant, disons. C'était, oui, bien sûr, il y en avait, mais c'était peu courant. Et comme moi, en plus, j'étais à un stade très avancé, puisque depuis 99, j'étais dedans, si tu veux. Donc, voilà, quand je commençais à en parler à des gens, il fallait que je me sente en confiance et que... pour pas qu'ils se moquent de moi, mais aussi pour pas que finalement ça coupe les liens. Et puis aussi parce que j'avais envie de convaincre. Je faisais du prosélytisme. Mais pour que le prosélytisme marche, il faut t'adresser à des personnes dont tu penses qu'il y a un potentiel. Pas que la personne se braque et te dise « mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi ce délire ?» Donc voilà. Et puis t'as besoin de confirmer. Moi, j'avais besoin de confirmer ma croyance en voyant des personnes qui pouvaient avoir cette même croyance.
D'accord.
Tu vois ? Et j'en suis arrivée à un stade où, comme j'étais complètement obsédée par ça, en fait, par tout ça, en plus de mon boulot, je continue à avoir un boulot et tout ça, mais c'était vraiment très présent dans ma vie. T'imagines que je me retrouvais dans un monde parallèle par rapport à la société où je luttais contre le mal. Où j'étais le bien contre le mal et je commençais à jouer avec les forces occultes, tu vois. Il fallait que je m'entraîne pour devenir une sorte de guerrière, si tu veux, une travailleuse de lumière, comme on dit, pour lutter. Et là, on en arrive effectivement aux Illuminati et aux reptiliens, c'est-à-dire les forces extraterrestres qui veulent maintenir l'humanité sous son contrôle dans une matrice comme dans le film Matrix. Et puis, il y a aussi les extraterrestres gentils, dont je suis une incarnation terrestre, qui est venue pour aider l'humanité. Et là, je dois dire que oui, à l'époque, j'étais complètement à côté de la plaque, quoi.
La reine d'Angleterre, tu pensais qu'elle était une reptilienne ?
Oui, sans doute, sans doute. C'est un peu flou tout ça pour moi aujourd'hui, parce que j'en suis tellement sortie que je garde quelques souvenirs marquants, si tu veux. Après, tout le décorum est un peu plus flou parce que, si tu veux, les reptiliens n'étaient pas mon cheval de bataille précisément.
Est-ce que tu te souviens être antisémite à ce moment-là ?
Alors, j'avais des considérations qui étaient antisémites, mais je ne me considérais pas comme antisémite et je ne pense pas que je l'étais vraiment. Disons que j'avais des réflexions qui pouvaient l'être du style « les Rothschild font partie des Illuminati et donc potentiellement peuvent être gouvernés par les reptiliens ». Le nouvel ordre mondial est très lié aux
juifs qui contrôlent une partie du nouvel ordre mondial.
Ouais, tout à fait. Bon, après ça, c'était vraiment pas central dans mes croyances, mais par contre, ça fait partie des meubles. Tu vois, ça fait partie du. C'est pas un truc auquel j'ai dit ah bah non, pas du tout. Tu vois, j'ai dit ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc j'avais vu une ou deux vidéos qui parlaient des Rothschild, du nouvel ordre mondial. Mais c'est ça qui est. C'est ça qui est marrant dans toutes ces croyances, c'est que je consultais beaucoup de... je me souviens, je ne regardais pas beaucoup de vidéos, mais je consultais pas mal d'articles, en fait. Et tu sais, il y a des articles de blog comme ça, de gens qui sont à fond dans les croyances et qui vont te faire des développements comme si c'était rigoureux, mais en fait, ça n'allait pas du tout. Et il y avait notamment un mec qui avait un blog sur le nouvel ordre mondial, et j'avais commencé à lire pas mal de ces articles, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ça n'a... Je comprends rien. Enfin, c'est très flou. Je comprends rien son truc. Et il fait des pages et des pages et des pages et des pages de blog comme s'il avait une connaissance sur le nouvel ordre mondial. Moi, je cherchais des connaissances.
Ouais.
Je cherchais des sortes de preuves, des sortes de compréhension, etc. Et au bout d'un moment, très rapidement, je me désolidarisais. Un peu comme avec les traditionalistes. Où ils disent une connerie. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? Tu vois ? Et alors, du coup, ce qui valait le plus pour moi comme preuve, c'était mon expérience personnelle, tu vois.
Ton extase, parfois.
Oui, oui. Ah oui, j'étais clairement... Je provoquais des états d'extase. Un peu, tu sais, comme les gens qui vivent des trans par le chamanisme et qui arrivent à un moment donné à les provoquer de manière assez, assez facile, assez systématique. Ils arrivent à se mettre dans cet état d'esprit qui les met dans un état de trans. Parce qu'ils ont pratiqué, parce qu'une fois qu'on l'a vécu, c'est finalement, c'est plus facile d'y retourner, de le refaire, de le reproduire. Et moi, je sentais mon corps qui s'expansait, qui devenait de plus en plus large, qui devenait grand comme la France, grand comme le monde, grand comme l'univers, tu vois. Et donc, avec un sentiment d'appartenance au monde, d'appartenance à l'univers, au grand tout, etc., qui était... une joie, tu sais, qui te fait couler les larmes, quoi, tu vois. Donc, je pouvais reproduire ça tous les jours, tout le temps.
Wow.
Mais, évidemment, j'avais conscience que de faire ça ne me permettait pas de communiquer normalement avec les gens. Hein. Donc, il fallait que je redescende régulièrement sur Terre. Pour... Mais donc, j'étais une sorte de junkie, si tu veux, de la spiritualité.
Ouais. Mais la part objective, c'est qu'en effet, tu, à force de travail acharné, t'avais dû quand même être super forte dans le fait de méditer. Enfin, c'était.
Ah ouais, je méditais 2 heures par jour.
C'est ça qui est. Oui, c'est-à-dire que. Alors après la phase délirante d'enfant indigo, mais avant la phase réelle, c'est que certainement que t'avais acquis un super pouvoir sur ta pensée.
Enfin, pour sur ma pensée certainement pas, parce que ma pensée elle divaguait. Si
sur
tu veux.
Tes pensées pour pouvoir les contrôler. Quand même, parce que c'est ça la méditation, c'est un moment de choisir.
Alors sur mon attention, ouais. Peut-être. Mais sur mes pensées, j'ai généré des pensées. J'ai accordé de l'attention surtout à des pensées qui m'ont semblé intéressantes, alors qu'en fait, c'était des pensées que j'aurais dû ignorer. Il y a tout un tas de choses qui nous passent par la tête. Moi, j'accordais de l'attention à certaines pensées qui venaient consolider, renforcer mes croyances et me faire aller de plus en plus profondément dans ces croyances, si tu veux. Donc, je ne dirais absolument pas que j'ai réussi à contrôler mes pensées ou à les dompter ou quoi que ce soit. Je pense qu'au contraire, je leur laissais le champ libre et que j'offrais un terrain de jeu à mes pensées dans le concret, dans le réel. Et ça peut devenir dangereux, même pour la santé mentale. Hein, parce que bien je pense sûr. Que j'étais vraiment très, très limite. Hein,
ouais.
Très, très, très limite. Et quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, mais Elisabeth, tu fais tout ça pour connaître l'éveil, pour connaître la vérité avec un grand V. Tu veux, par ce biais-là, connaître la joie. Tu veux, par ce biais-là, être épanouie. Alors, c'est vrai que tu vis des expériences extraordinaires, uniques, hors du commun, que personne d'autre ne vit, parce que toi, tu es un être exceptionnel. Mais cet être exceptionnel, il a de grands pouvoirs, donc de grandes responsabilités. Et surtout, il est en contact permanent et quotidien avec les forces obscures. Et ça, c'est très chiant. Et ça, c'est pesant. Et ce sentiment de se sentir attaqué, en fait... par des forces négatives qui ont vu que tu avais
un pouvoir.
Une puissance, c'est pas ça que je veux faire de ma vie, en fait. Je suis pas sortie du catholicisme, de cette dualité entre le bien et le mal que je n'ai plus aimé assez rapidement, pour me retrouver dans un même système duel où, alors oui, je suis du côté du bien, mais je lutte tous les jours. Et je m'entraîne pour être une sorte de guerrière, travailleuse de lumière. Mais je n'ai pas envie de ça, en fait.
Tu veux dire que la parano te bouffait ?
Ah oui, c'est parano, ouais. Parano, ouais. Tu ne peux pas aller dans certains coins, t'asseoir dans le métro, parce qu'à cet endroit-là, tu sens qu'il y a une énergie négative, tu vois, ce genre de truc. Tu vois un truc, tout à coup, un sticker dans la rue, machin, tu vois un signe, tu t'interprètes tout.
Tu voyais des morts, des fantômes ?
Non, par contre, je communiquais avec des extraterrestres. Je communiquais avec des anges.
T'entendais des voix ?
Alors, j'ai entendu une fois vraiment, alors entendre des voix au sens physique du terme, c'est-à-dire comme si quelqu'un te parlait, hein, ce qui est un signe de psychose en général. Hein, donc, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois que j'entende qu'on m'appelle Elisabeth dans ma tête. Personne ne me l'a dit, mais je l'ai entendu comme si on me l'avait dit. Et j'ai trouvé ça génial hein, à l'époque. Mais là, avec le recul, je me dis quand même, bon, ouais. Là, je pense que j'étais sur une pente dangereuse, vraiment dangereuse. Et alors, ça m'amène aussi à la réflexion de me dire, une personne qui peut avoir un potentiel psychotique, ça peut mal se terminer, quoi.
C'est sûr.
Et avec la certitude vraiment intime que j'avais de vivre quelque chose de vrai, quoi.
Et la force à ce moment-là, heureusement, c'est que tu prends rien. Tu fumes pas de drogue.
Non, moi j'ai jamais aimé, j'ai toujours eu peur en fait.
Parce que avec ça, ça aurait pu être décuplé dans le fait d'être la vérité, d'être choisie.
Oui, d'ailleurs il y a plein de gens dans le New Age qui utilisent des drogues. Hein. Il y a maintenant beaucoup de... Alors il y a l'ayahuasca évidemment, qui est une drogue extrêmement dangereuse, hein, qui crée beaucoup de situations de psychose, voire de psychose qui s'installe. Il y a le LSD qui commence à beaucoup se banaliser, et je parle pas du microdosing, hein, je parle... du LSD, comme si c'était pas addictif, pas problématique et pas dangereux. Bon, après, il y a évidemment la marijuana qui circule aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui pourraient, effectivement, qui peuvent démultiplier, hein, l'effet de... Moi, j'étais, je pense, vraiment, addict en français...
Dépendante
de mes expériences spirituelles.
Ouais, c'est ça.
Elle me mettait très clairement dans des états seconds. J'étais vraiment dans des états modifiés de conscience, hein, que je m'auto-générais. Comme si, je pense vraiment comme si j'avais pris de la drogue. Hein, c'est puisque, ça. Comme je te dis, je parlais, j'avais des conversations avec des extraterrestres. Hein. Donc je ne les voyais pas, mais je les sentais, je dialoguais avec eux, j'avais établi une langue, une espèce de... Tu vois, puisque tout se passait par les énergies, donc j'avais déterminé que si mon bras faisait tel geste, etc., ça voulait dire que, etc., etc. Donc voilà, non, j'étais partie très très loin, et à un moment donné, je voyais que ça ne correspondait pas à ce que je voulais, mais en même temps, tu ne peux pas te dire « Ah, je vais abandonner ce pouvoir parce que j'ai envie de revenir à une vie banale. » Donc c'est là que j'ai commencé à faire ces recherches sur Internet, et que je me suis dit « Bon, ok, je lis plein de trucs sur les enfants indigo, puisque moi je suis concernée. C'est quoi cette histoire ? Et donc, quelque part, tu vois, je pense que peut-être que je cherchais des infos qui m'auraient permis de m'échapper de cette condition un peu aliénante pour moi. Alors, aliénante objectivement, comme je l'ai décrit là, mais que je ressentais aussi comme aliénante par rapport à toutes ces contraintes que ça m'imposait vis-à-vis des énergies négatives.
Ouais.
Et du coup, je me documente sur Internet sur les enfants indigo, parce qu'il y a plein de définitions différentes, il y a plein de missions de vie. C'est très très vague à l'époque, et ça l'est aussi encore plus aujourd'hui, parce que maintenant, il y a les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants ci ou ça, et ça, c'est sans fin.
Et voilà, c'était la première partie de mon épisode avec Elisabeth Vetti. Dans le second volet qui sort lundi prochain, Elisabeth raconte comment ses recherches pour mieux se connaître en tant qu'enfant indigo lui ont permis de finalement sortir de sa croyance. Du déclic, nous explorerons comment Elisabeth en est venue à créer le podcast Méta de choc. À très vite donc.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.